Ok. Généralement, ça se passe comment? Tu mets tes notes ici, Jean-Marc, quand tu prêches Ouais, ok, ok, super.
Okay. Voilà.
Merci à beaucoup. Toi. Alors, merci à tous pour ce matin, pour votre présence. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction de revenir dans cette église. J'avais quel âge, maman, quand je suis venu ici à Kevin? J'avais 12 ans. Puis je faisais la, ça va rêver, je faisais la percussion ici, le djembé, je me rappelle. Puis le service des enfants également un petit peu. Je me rappelle, on prenait les enfants, on traversait la rue de Kevin, on allait dans une espèce d'école, je pense, sur le côté. En tout cas, c'est 20 ans, ça fait quasiment 20 ans. Mais c'était tellement une joie d'avoir commencé à servir le Seigneur, littéralement ici. C'est ici que j'ai commencé à servir Dieu. Avant, j'allais dans une autre église à Verdun également avec ma grand-mère. Et puis après ça, on est venu ici. Puis là, c'est là où j'ai commencé à servir le Seigneur. Jean-Marc m'a fait confiance, il m'a permis de faire de la louange. Et puis j'ai vraiment eu à cœur de me développer, de me donner au Seigneur, de que Dieu puisse m'utiliser dans mon époque, dans ma génération, etc. Et puis après, comme il l'a bien dit, ben, j'ai été dans une autre église et j'avais 22 ans et j'ai décidé de répondre à l'appel. Je chantais vraiment quelque chose sur mon cœur et j'ai décidé d'aller au Canada. Donc au Canada, le pays où il fait chaud toute l'année, comme vous le savez. Ça date de 2014. J'étais parti en vacances avec ma mère en 2014 et quand j'étais à Nouvelle-Vie, je savais que Dieu voulait me développer encore plus loin dans la louange, etc. Je jouais au piano, etc. Et quand j'ai été au Canada, j'ai vu que le niveau de la louange était très haut. Je savais que je voulais me former plus dans la louange. Il y avait des formateurs, etc. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Finalement, ça a pris un an. Et quand on était parti en 2014 avec ma mère, pour vous faire un résumé assez bref, on a vu à la fin d'une réunion, on habitait à Montréal, l'église était dans la banlieue de Montréal, un peu comme imaginer que l'église était à Lorient, l'église était à Kevin, puis nous on était dans un Airbnb à Lorient. Donc, mais c'est un peu plus grand, c'est un grand centre, Montréal, donc il fallait prendre des métros, des bus, etc. Donc moi, à la fin de la réunion, je demande, est-ce que, à tout hasard, quelqu'un rentrerait à Montréal? Donc, est-ce que quelqu'un, imaginons à Kevin, rentrerait à Lorient? Et puis là, il y a quelqu'un qui me dit, ben, on va essayer de vous trouver quelqu'un pour vous ramener, etc. Et c'était le soir, il était tard. Et au final, il y a quelqu'un qui a accepté de faire une grande boucle, et faire peut-être un détour de 15 km, 15-20 km, et nous ramener juste devant notre Airbnb. Et puis là, je ne savais pas qu'en fait, c'était Dieu qui commençait à emboîter les étapes pour pouvoir me faire venir au Canada. Ces personnes qui m'ont ramené m'ont dit, est-ce que Issa, qu'est-ce que tu fais en France, etc. Moi, à l'époque, je travaillais à Decathlon, donc je m'occupais d'une équipe à Decathlon, Decathlon Lorient. J'étais en alternance en école de commerce. Et je me suis dit, bon, bah, je ne sais pas encore ce que je fais, mais je travaille à Decathlon. Et puis ils me disent, bah, si un jour tu veux venir au Canada. Je leur disais que peut-être un jour je viendrais me former. Ils me disent, ne t'inquiète pas pour l'argent, etc. Tu as une famille ici, on va s'occuper de toi, on va t'héberger, etc. Je fais, waouh, c'est des gens qui ne me connaissent même pas. Ils m'ont juste ramené le soir, ils me proposent déjà de m'ouvrir leur maison et de m'héberger. Après ça, il y avait le directeur de la louange de l'église Nouvelle-Vie, qui est une grande église, Nouvelle-Vie, c'est une église de 5000 personnes. Et je vais le voir à la fin de la réunion, je dis, bah voilà, moi je suis un petit pianiste de la Bretagne, etc., de Lorient dans mon église, je joue, et puis est-ce que vous formez des musiciens? Et puis ils me disent, ben, moi je suis très occupé, on a un département, on est 120 musiciens dans le département, mais si tu viens à Montréal, je prendrai le temps de te former. Donc je dis, waouh, encore une autre porte qui s'ouvre, etc. Donc c'était plein de portes qui se sont ouvertes. Et puis après, il y a eu certaines péripéties. Malheureusement, le directeur de louange de l'époque est décédé. Et du coup, bah, moi, ça m'a un peu ébranlé parce que je me suis dit, bon, bah, est-ce que finalement, il n'y a plus personne pour me former? Je demandais à certaines autres personnes de l'église, est-ce qu'il y avait d'autres formateurs? Ça avait l'air de, il y avait l'air de plus en avoir, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est plus pour moi le Canada, etc. Mais j'avais quand même toutes ces portes-là ouvertes et je me suis dit, bon, bah, je vais me mettre dans la prière. Au final, je suis revenu de ces 2-3 semaines de vacances et j'ai gardé le contact avec les personnes qui acceptaient de m'héberger au Canada. Et un an après, je suis parti au Canada. Et ça a été vraiment pour moi vraiment un grand chamboulement dans ma vie. Moi, je vivais chez ma mère, je travaillais, j'avais une certaine petite sécurité. Puis là, c'était de partir à l'inconnu, à l'international. Oui, le seul point commun, c'était le français, puisque sinon, c'est une culture américaine. Ouais, un petit peu, Jean-Marc, c'est ça. À peu près le français, voilà. Il y a des le un peu partout, mais sinon, c'était à peu près la même langue. Mais c'était que la langue qui restait la même, sinon la culture, la manière de penser, la manière de faire l'église, vraiment c'était complètement différent. Donc je suis arrivé, vraiment je me suis fait brasser dans quelque chose qui était totalement différent de ce que je connaissais. Et au final j'ai travaillé dans des compagnies, et puis à un moment donné j'ai eu un problème avec mon visa, et j'ai dû réfléchir à quel autre visa je pouvais faire. Et finalement je me suis dit, c'est peut-être le temps pour moi de me former. Je sais que Dieu m'a donné un appel et qu'il veut m'utiliser. Et c'est peut-être le temps de me former plus profondément dans les Écritures. Et j'ai décidé de faire une école biblique. 2-3 ans, un collège biblique au Canada, qui est l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie. Et j'ai fait cette école-là 3 ans. Et après ça, maintenant je suis pasteur à l'église Nouvelle Vie. Et à la fin de la graduation, en fait, le président de l'école biblique m'a fait parler, fait représenter les étudiants. Et puis il m'a dit, il y a eu deux pasteurs de deux églises différentes au Québec. Il y avait plein de pasteurs des églises du Québec qui étaient là à cette cérémonie. Puis il y en a deux qui m'ont rencontré, qui m'ont dit, est-ce que Issa, tu serais intéressé d'être pasteur dans notre église? Voici ce qu'on a proposé, etc. Et puis maintenant, je sers le Seigneur comme pasteur jeunesse. Donc je m'occupe des jeunes adultes. Je m'occupe également de la louange. C'est pas l'église mère, mais c'est l'église à plusieurs campus. Et je fais également tout ce qui va être le suivi un peu pastoral, on va dire. Donc je vais rencontrer les malades dans les hôpitaux pour s'ils ont besoin d'un aumônier, un pasteur. Je fais un peu avec les prisons, on fait des choses avec les prisons, etc. Donc c'est vraiment tout nouveau pour moi, ça fait 3-4 mois. Puis ça a été vraiment intéressant. Donc ça fait 7 ans maintenant, 7 ans que je suis là-bas. Puis ça a été intéressant comment Dieu m'a guidé tout au long du navire. Ça n'a pas été facile à chaque fois. Il y a des fois où je me posais des questions, est-ce que je suis à ma place, etc. Mais Dieu a fait le chemin avec moi. Et puis là, c'est le début d'une nouvelle étape, puisque je suis maintenant à 1 heure de chez moi. Donc l'église où je sers est à 1 heure de chez moi. Donc chaque dimanche, je fais 1 heure de route. La semaine, on a des comités pastoraux, je fais 1 heure de route, etc. Mais je suis à ma place. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, je sers encore le Seigneur 20 ans après. J'ai commencé ici, j'avais à peu près 10 ans. Et je sers encore le Seigneur 20 ans après. Et je remercie le Seigneur parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a des fois, j'ai voulu abandonner. Mais j'ai réalisé que aimer Dieu, au-delà d'un sentiment, d'une émotion, d'un feeling, c'est vraiment une décision. En fait, on décide d'aimer le Seigneur. On choisit de suivre le Seigneur également. Dieu se propose à nous, mais après, on a toujours un choix qui nous est présenté. Est-ce qu'on va accepter de le suivre ou est-ce qu'on va accepter de ne pas le suivre? Est-ce qu'on va accepter de pardonner ou est-ce qu'on va accepter de garder de la rancœur? En fait, toute la vie, tout ce qu'on fait, c'est toujours un choix. Et on a un choix à faire et on choisit ce que l'on veut. Et puis, chaque choix va avoir une conséquence derrière qui va nous amener dans un endroit ou dans un autre. Donc aujourd'hui, voilà, c'était un petit peu ma petite histoire au Canada. Je fais également maintenant du piano. J'enseigne aussi le piano dans une école, etc. à côté, parce que je suis pasteur bénévole. Donc là, je donne mon temps pour faire l'œuvre de Dieu. Puis à côté, il faut bien payer ses charges aussi. Donc je donne des cours de piano et j'entraîne aussi. Je suis aussi entraîneur à côté. Donc c'est ça, je suis entraîneur et j'entraîne chez moi. J'ai une salle de sport, donc j'entraîne pendant toute l'année là. Donc voilà, je vais vous partager maintenant un peu le message que Dieu, sauf si Jean-Marc, c'est bon, est-ce que tu voulais dire quelque chose ou je continue pour le... Ok, parfait. Je vais partager quelque chose. Quand Jean-Marc m'a approché, c'était la semaine dernière, je pense, pour me dire... C'était cette semaine. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu prêches, etc., dimanche, et que tu partages ton expérience. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais partager? Aussi, tous mes ouvrages étaient au Canada. Donc, je n'avais pas mes dictionnaires bibliques, mes dictionnaires théologiques, mes commentaires. j'avais pas mes bibles d'études, etc. J'étais vraiment limité. J'avais ma tablette, littéralement. Donc j'ai appelé Jean-Marc et j'ai dit à Jean-Marc, est-ce que je peux passer chez toi pour prendre quelques livres dans ta bibliothèque pour préparer mon message? Et au final, j'ai été chez ma grand-mère à Noël. Et là, je suis arrivé dans la chambre d'en haut et j'ai vu toute une grande bibliothèque d'ouvrages théologiques, des ouvrages de, je pense, la grand-mère de ma grand-mère. Donc imaginez des ouvrages de plus de 100 ans. Littéralement là des années 1900, je pense que c'est quasiment des années 1900. Puis j'ai vu ça, j'ai fait comme waouh, il y avait tellement des belles pépites. Et puis donc aujourd'hui le message que j'avais sur mon cœur, c'est j'aimerais parler du berger. Je me suis dit comment démarrer l'année? Est-ce que je réfléchis, est-ce que je veux parler du leadership de Jésus? Est-ce que je vais parler de la foi? Qu'est-ce que je peux? C'est le premier culte de l'année, avec quoi on peut bien commencer une année? Et puis je me suis enfermé dans ma chambre, j'écoutais de la louange, etc. Puis j'ai comme eu sur mon cœur une pensée qui a été déposée par le Seigneur, je le crois, qui était vraiment de parler du berger. Donc, pour vous parler du berger, je vais vous poser une question. La première question que j'aimerais vous dire, c'est lorsqu'on parle de berger, ça va être interactif, ok? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est, 3-4 personnes, qu'est-ce que c'est un berger pour vous? Quand on parle de berger d'une manière générale, 1-2 personnes, vous pouvez lever la main, dire c'est quoi pour vous berger? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est qu'un berger? Pour exemple, Michel, vas-y. Quelqu'un qui s'occupe des brebis, des moutons, quelqu'un d'autre? Un berger, oui? Un protecteur? Est-ce qu'il y a une autre personne? Oui, un accompagnateur, un guide. Je vais vous lire un passage rapidement et puis après on va aller dans la suite. Le passage est dans Psaume 23. Un passage, je suis sûr que vous connaissez bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et vous avez parlé donc de guide, de protecteur, etc. Et c'est tous des bonnes définitions. J'ai regardé, pour être vrai avec vous, dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est qu'un berger. Il disait que le dictionnaire disait « personne qui garde les moutons ou les chèvres, qui prend soin du troupeau ». Quand j'ai regardé un peu les synonymes, il disait dans le dictionnaire Larousse « pasteur ». Éleveur, gardien de troupeaux dans les sociétés pratiquant le pastoralisme. Et également, dans les définitions secondaires, il y avait « ayant charge d'âme ». Lorsque nous voyons un petit peu la pensée biblique de qu'est-ce que nous dit la Bible finalement sur ce que c'est qu'un berger, le berger peut être celui qui a la charge d'un troupeau de moutons, celui qui a la charge d'âme également. La vocation de berger était toujours un petit peu astreignante. Le berger doit trouver pâturage et eau sur une terre pierreuse et aride, protéger son troupeau des intempéries et des bêtes sauvages, comme on peut le voir dans l'histoire de Amos, et retrouver les animaux égarés. Quand sa tâche l'entraînait loin de tout lieu habité, le berger mettait dans un sac les quelques objets dont il avait besoin et pouvait emporter une tente pour y dormir. Il avait parfois des chiens pour l'aider, comme ses homologues d'aujourd'hui. Le berger était tenu de rembourser toute bête perdue. Donc c'était vraiment, on voit le berger, quelqu'un de responsable. Le berger était donc tenu de rembourser toute bête perdue, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa prévoyance et de sa volonté. Le berger idéal devait être fort, dévoué et désintéressé. Et beaucoup l'étaient, mais certains ne l'étaient pas. Et cette profession était si honorifique dans la Bible que l'Ancien Testament parle souvent de Dieu même comme berger d'Israël. Plein de sollicitude, mais pourtant capable de disperser le troupeau dans sa colère ou de le rassembler à nouveau dans le but de le pardonner. Et la Bible, si vous lisez la parole, vous allez voir que souvent dans la Bible, on va voir également que la Bible dénonce les mauvais bergers. Et Pour préparer ce message-là, je me suis entretenu avec un berger littéralement en France, un berger qui est dans le Lot de la France, et je me suis dit, ben, je connaissais quelqu'un qui était berger, je me suis dit, moi j'étais assez limité sur ma compréhension de berger, je connais un petit peu la Bible, mais sinon je ne savais pas concrètement ce que c'était qu'un berger, et j'ai appris plusieurs choses en parlant avec lui. Il m'a parlé de l'alimentation du troupeau. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je veux vraiment commencer par la façon naturelle de ce que c'est qu'un berger, pour après que vous compreniez, lorsque David parlait de l'Éternel est mon berger, quelle compréhension, quelle vision il pouvait avoir de se confier dans Dieu qui était son berger. Donc, l'alimentation du troupeau. Un berger doit connaître la physiologie aujourd'hui, donc je parle, la physiologie de l'animal. Donc, il doit savoir que il a besoin donc d'air, mais que la race ovine peut, par exemple, lorsqu'il mange de l'herbe, transformer l'herbe et en faire du muscle. Pour les ruminants, le système digestif leur permet, contrairement à nous les hommes. Donc, les moutons, etc., peuvent transformer également les céréales, le blé, l'orge. Où se trouve la brebis reproductive, on va adapter l'alimentation. Donc, c'est vraiment un berger doit vraiment bien connaître tous ces paramètres-là pour pouvoir bien prendre soin de son troupeau. On ne nourrira pas la même brebis si elle a un agneau dans le ventre ou si elle en a deux. Donc, c'est vraiment assez technique. Également, il doit connaître tout ce qui va être sur la reproduction du troupeau. Chaque espèce est différente et a des caractéristiques spécifiques. Le berger doit les connaître. Lorsqu'à l'automne, par exemple, les jours décroissent, c'est là où la brebis va se reproduire. Donc également, les mois d'hiver, la reproduction va être endormie pour certaines races. Donc c'est vraiment, on voit que le berger, c'est un métier qui est assez complexe, mais c'est un métier qui est pertinent pour avoir discuté avec un berger français. Il parlait également du côté sanitaire du troupeau. Il doit être irréprochable, sinon des maladies se déclencheront. C'est un travail important car il a une incidence sur la mortalité des agneaux, des brebis. Également, il y a un accompagnement vétérinaire. L'animal est sensible aux parasites internes et externes. On voit vraiment que les brebis, c'est des animaux complexes. On peut les vacciner. Il y a des règles pour l'éleveur. Quelquefois même, on va jusqu'à abattre même des brebis ou des troupeaux. Par exemple, quand il y a eu l'exemple de la vache folle, et qui pouvait se transmettre à l'homme. Il y a des troupeaux au complet qui ont été abattus pour protéger les humains. Et également, il y a le côté de la bergerie. Donc, on crée des bâtiments d'élevage les plus grands possibles. On ne charge pas trop les animaux. Il faut qu'il y ait un volume d'air suffisant. Il y a un aménagement des couloirs d'alimentation. Il doit y avoir une souplesse de l'usage des bâtiments. On va faire attention à avoir des abreuvoirs. Il y a des normes en matière d'abreuvoirs. Il ne faut pas que des courants d'air dans la bergerie arrivent, car cela viendrait altérer la capacité isolante de la toison en laine, qui est un isolant de la brebis l'hiver. Vous voyez bien qu'un berger, c'est pas juste prendre le troupeau et l'amener d'un point A à un point B. Il y a énormément de comment je pourrais dire ça, j'ai oublié le mot français, mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte si on veut vraiment que le troupeau puisse être en santé, en vie, que tout puisse bien se passer. Il doit avoir tout ça. Donc c'est vraiment un berger, quelqu'un de responsable. Et lorsque j'ai étudié ça, lorsque j'ai compris ça en m'entretenant avec un berger français, je me suis dit, waouh, j'ai relu le psaume 23, et quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », moi, dans ma tête, un berger, c'était quelqu'un qui amenait un troupeau d'un point A à un point B, qui prenait juste, qui protégeait, etc., qui guidait, mais il y a beaucoup de paramètres un peu plus techniques qu'on réalise que, waouh, Dieu nous connaît, on est unique devant lui, et lorsque on est sa brebis, lorsqu'on accepte de se placer finalement sous le leadership de Jésus, qui est notre berger, la Bible l'appelle le grand berger, le bon berger, on peut comprendre qu'en fait on peut lui faire confiance, car il connaît tous les aspects, les paramètres autour de nous, ce qu'on a besoin de manger, ce qu'on a besoin pour être heureux, ce qu'on a besoin pour avancer dans le temps, etc. Jésus connaît tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », David s'appuie sur sa propre expérience, puisqu'il exerçait littéralement cette activité-là durant sa jeunesse. Les brebis dépendent entièrement pour la nourriture, la conduite et la protection. Et comme je vous ai dit, le Nouveau Testament applique l'image à Jésus en l'appelant le bon berger. On peut le voir dans Jean 10, verset 11. Le grand berger, on peut le voir dans Hébreux 13, verset 20. Et le souverain berger dans 1 Pierre 5, verset 4. D'autres noms de Dieu, comme on peut voir dans la Bible, Seigneur, Roi, Créateur, inspire toujours une sorte de crainte, mais il n'en est pas de même du mot de berger, car il suffit d'entendre le mot berger pour éprouver confiance, consolation, sécurité. Mais pour bien comprendre cette image, il faut observer ce qu'est une brebis. Elle ne vit que grâce à la protection et à la sollicitude de son berger. Dès qu'il lui manque, elle est entourée de dangers et menacée de périr. Elle n'est qu'un pauvre petit animal dépourvu d'armes pour se défendre et d'intelligence pour retrouver sa voie. Il est une chose pourtant qu'elle sait faire, se tenir près de son berger et compter sur sa force et sur sa fidélité. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit nos vies, on peut dire qu'on compte littéralement sur Dieu dans nos choix, dans nos décisions, dans nos façons de pouvoir bâtir notre futur? Le verset 2 nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » De verts pâturages, des pâturages verdoyants, des endroits où c'est bon d'y vivre, des eaux paisibles. C'est-à-dire que Dieu, lorsque tu acceptes de le laisser prendre le contrôle de ta vie, lorsque tu arrêtes de vouloir contrôler comme tu le veux ta propre vie, que tu acceptes que Dieu soit ton berger, alors tu vas pouvoir être près des eaux paisibles. Ça va être difficile, il y aura des temps difficiles dans ta vie, mais au moins, Dieu t'assure sa paix. Dieu t'assure sa paix. Et il dit, dès le matin, la brebis sait qu'elle ne manquera de rien. Tout autour du pâturage, elle broute une herbe abondante. Au moment de la chaleur du midi, le berger trouve pour son troupeau un endroit ombragé au bord d'un courant d'eau. Dieu nous prend notre vie et nous amène dans un endroit de délice, un endroit où c'est le meilleur pour nous. Mais pour ça, il faut accepter de devenir sa brebis. Il faut accepter de dire à Dieu, oui, sois mon berger et amène-moi là où tu veux. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. En permettant à notre divin berger de nous conduire, nous découvrons la joie. Si en revanche, on décide de pécher, de mener notre vie comme on veut, tout à l'heure, je parlais de décision, je disais qu'on peut décider d'aimer, on peut décider de haïr. On peut décider de pardonner, on peut décider de garder de la rancune. Chaque situation, on est souvent confronté à des situations, mais on a toujours une décision. Décision A, décision B. La Bible dit d'ailleurs, choisis la vie ou tu peux choisir la mort. Mais derrière chaque décision que tu vas prendre, ça va t'amener à un endroit, ça va générer une conséquence. Et c'est en lui obéissant que nous attendrons les bonnes choses pour nos vies. Refuser de le suivre, c'est aller contre finalement notre propre intérêt, puisqu'on a compris que par nous-mêmes, si on voit par exemple tout ce qui s'est passé avec la Covid, on a vu qu'on n'était plus grand-chose là. Avec la Covid. La Covid, ça a ébranlé énormément. Moi, j'ai plusieurs amis à moi qui étaient chefs d'entreprise, etc., qui ont perdu leur compagnie. Je connaissais des gens qui étaient bien et qui se sont trouvés aux soins intensifs. On a vu qu'un microbe peut arriver comme ça et puis ça peut complètement changer complètement le monde et on voit qu'on n'est plus grand-chose. Et c'est à plus forte raison alors qu'on est sorti de tout ça, du confinement, etc., et qu'on a vu qu'on n'était pas grand-chose, à combien plus forte raison maintenant qu'on est post-Covid, qu'on est après la Covid, on doit réaliser, oui, je ne suis pas grand-chose, j'ai vu pendant ces années-là que finalement la vie ne tenait qu'à un fil et que j'ai besoin d'être collé à mon Créateur, à celui qui peut m'amener près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, verset 4, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui est intéressant, c'est que la mort a un caractère particulièrement effrayant, car nous nous sentons totalement démunis face à elle. Nous pouvons lutter contre des adversaires aujourd'hui tels que la douleur, la souffrance, la maladie même ou l'insulte qu'on peut nous faire à notre égard, mais ni la force ni le courage ne peuvent rien contre la mort. C'est elle qui a le dernier mot. Une seule personne peut nous accompagner dans la vallée de l'ombre de la mort et nous conduire sains et saufs de l'autre côté. Et qui est cette personne-là ? C'est le Dieu de la vie, notre berger. N'étant pas maître de la vie, contentons-nous de suivre celui qui offre sa présence éternelle, Jésus. Tu dresses devant moi, verset 5, une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « tu dresses la table ». L'image du berger dans ce passage-là, dans psaume 23, se transforme en celle d'un hôte bienveillant. À la vue de ceux qui me persécutent, les ennemis sont condamnés à assister au triomphe de qui ? De nous, aujourd'hui chrétiens, des fidèles. Tu oins ma tête. Le sens propre, le sens spirituel se touche. L'onction d'huile accordée aux hôtes que l'on recevait était en même temps un rafraîchissement pour le corps et un symbole de joie et de bénédiction divine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il clôture comme ça, David, et j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. Lorsqu'on voit que Dieu nous amène près de verts pâturages, lorsqu'on voit que Dieu nous amène près des eaux paisibles, lorsqu'on voit que Dieu nous fait traverser la vallée de l'ombre de la mort et que nous ne craignons aucun mal, on réalise alors, comme David, que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour de notre vie et qu'on finalement on désire, c'est même plus est-ce que c'est un choix, c'est une décision lorsqu'on a réalisé tout ça que on habitera comme David dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours parce qu'on comprend que c'est la meilleure chose à faire, habiter dans la maison de l'Éternel. Et lorsque vous étudiez un petit peu le contexte, vous allez voir que dans le Proche-Orient ancien, la coutume voulait qu'on verse de l'huile parfumée sur un invité et que celui-ci soit protégé à n'importe quel prix par son hôte. C'est ce genre de protection que Dieu nous offre même lorsque nous sommes cernés par l'ennemi. La dernière scène de ce psaume assure que le croyant sera pour toujours avec lui. Celui qui est berger parfait et l'hôte parfait promet de nous guider et de nous protéger et de protéger notre vie durant tout le périple jusqu'à notre arrivée auprès de lui. Plus de danger, mais une sécurité absolue et durable. Mais alors que David avait cette compréhension de qui Dieu était, ce qui est extraordinaire, c'est que nous, chrétiens, aujourd'hui, on a la chance, on a la grâce, on a le privilège de pouvoir nous référer à Jésus. Ces personnes-là, ils auraient tellement voulu lire les évangiles, lire tous les miracles que nous pouvons goûter dans la lecture des évangiles et puis des épîtres, de voir tout ce que Jésus a fait, puisque ce Dieu berger que David parle, il s'est matérialisé, il s'est humanisé en la personne de Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, lorsque nous lisons, on peut lire ensemble le passage en Jean 10, il dit « en vérité, voici qui est Jésus. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Je m'arrête ici avant de continuer dans le chapitre. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut dire « Ah, j'arrive à reconnaître quand c'est Dieu qui me parle. Je sais que oh là, c'est Dieu qui m'ouvre cette porte-là. » Est-ce qu'on a la capacité d'entendre sa voix? Si on veut avoir on peut avoir la capacité d'entendre sa voix, mais pour ça, il faut le connaître. Il dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Mais pour apprendre à connaître la voix de Dieu, il faut passer du temps avec lui, il faut être en communion avec lui, il faut accepter, comme j'en ai parlé durant tout mon message, d'accepter que Dieu soit notre berger. Tant qu'on voudra faire les choix qu'on veut, tant qu'on dira « je fais ceci comme ça », et qu'on n'acceptera pas que Jésus soit notre Seigneur, finalement, tant qu'on dira juste « Jésus, tu es mon Sauveur », mais Jésus, tu n'es pas mon Seigneur, parce que vouloir que Jésus soit notre Seigneur, ça implique que nos rêves puissent peut-être malheureusement mourir. C'est peut-être que tout ce que nous choisissons, peut-être que Dieu aura choisi autre chose pour nos vies. Mais la certitude, c'est que les rêves de Dieu pour nos vies seront les meilleurs, parce que Dieu nous connaît, comme je vous ai dit, et il a des plans et des rêves et une paix là-dedans. Donc c'est moi, il y a des choses que je voulais dans ma vie que finalement Dieu m'a pas permis de rentrer. Et aujourd'hui, quand je vois ce que je fais, je dis heureusement que j'ai pas fait ça. Mais sur le moment, des fois, on comprend pas. On est là, on dit pourquoi, Seigneur, est-ce que je te fais confiance maintenant, est-ce que je te fais plus confiance? Mais finalement, Dieu connaît notre futur et sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et dit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus seul est la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il trouvera des pâturages. Je trouve ça tellement extraordinaire parce que lorsque on passe du temps avec Jésus, lorsqu'on prie, lorsqu'on est en communion profondément avec lui, il trouvera des pâturages. Quel est le pâturage que tu as trouvé dans ta vie, ou quel est le pâturage que tu désires trouver? Pour cela, il faut que tu sois en communion avec Jésus, parce que Jésus est clair, celui qui passe par ma porte, je suis la porte, il trouvera des pâturages. Et il dit, je suis venu afin que quoi? Que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas dans la disette, mais dans l'abondance. Et c'est extraordinaire parce que Dieu ne veut pas simplement que nous vivions une vie misérable, mais il veut qu'on soit dans l'abondance. Et quand je parle de l'abondance, je ne parle pas forcément de l'abondance matérielle, parce que ça, c'est éphémère et ça restera, mais d'une abondance spirituelle, des choses qui ne passeront pas, des choses qui sont éternelles, l'amour, la joie, les vraies valeurs. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'avoir été dans un pays en Afrique qui était très, très, très pauvre. Ils n'avaient vraiment pas grand-chose, mais ils étaient tellement joyeux, ils étaient tellement heureux, et ils avaient des richesses que le bien matériel ne proposait pas. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Jésus appelle chacun par leur nom. Il te connaît, toi, personnellement. Comment tu es constitué, ce que tu cherches, pourquoi alors n'accepterions-nous pas de nous laisser conduire par un berger aussi bon qui nous connaît, qui veut nous faire reposer dans de verts pâturages près des eaux paisibles en nous protégeant de tout mal? Dans les actualités, si vous avez regardé un petit peu récemment, cet été, on a vu qu'il y avait un berger du nom de Jean-Paul Hébrard, qui a perdu 17 de ses brebis dans l'Aubarais. Il a eu la peur de sa vie, nous témoigne son ami journaliste Dominique Garel. Et pourquoi je parle de ce berger-là en France? Pour vous dire qu'il faisait du mieux qu'il pouvait. Puis malgré son désir de prendre soin du troupeau, humainement, il était limité. Il a perdu 17 brebis et en plus, lorsqu'il a été confronté au loup, il était effrayé, il avait peur. Et il a probablement perdu un peu les pédales là-dedans, et c'est totalement normal. Qui d'entre nous n'aurait pas eu peur face au loup? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si les brebis acceptent de suivre ce berger Jean-Paul Hébrard, à combien plus forte raison nous qui avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, où il n'y a pas d'ombre de variation, qui n'a pas de peur en lui, à combien plus forte raison nous devrions accepter de le suivre? À combien plus forte raison? Et c'est vraiment la fin de mon message. Je veux vraiment vous dire, pour vous ramener avec la question que j'avais au début de mon message, c'est est-ce que tu laisseras Dieu en 2023 être ton berger? Voilà, c'est ce que j'avais pour vous.